Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
20h42 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure du lobby, le rendez-vous LGBTQIA+ de Radio Campus Paris. C'est parti, Suzanne.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
Assez de société qui ne respecte pas les sensibilités.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexisme, on rencontre assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, au sommaire ce soir. Il y a des jours où je me dis que ce générique est peut-être un tout petit peu trop festif pour les sujets qu'on aborde dans cette émission, que ce soit le génocide en cours dans la bande de Gaza avec l'écrivain palestinien Karim Khatan en octobre, ou bien la domination adulte et l'inceste avec l'auteur et art-thérapeute Juliette Drouard. Ce soir, un peu le même problème puisqu'on se tourne vers les États-Unis. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a entraîné une série de mauvaises nouvelles, c'est le moins qu'on puisse dire pour la communauté queer. On s'intéresse ce soir particulièrement à l'une d'entre elles, le gel du financement des programmes d'aide humanitaire américaine, et notamment donc le PEPFAR, ce programme de lutte contre le VIH-SIDA. Un véritable couperet pour les ONG qui luttent contre l'épidémie, alors même qu'en 2023, 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au VIH dans le monde et plus de 1,3 million de personnes ont été contaminées. On en parle avec nos deux invités. Dominique Costagliola, bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Merci beaucoup de prendre le temps de passer par notre studio ce soir. Et à vos côtés, on accueille Christophe Martet. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous vivez, vous, avec le VIH depuis 1985. Vous êtes président de l'association Paris et Seine-Saint-Denis sans SIDA. Vous avez aussi présidé ACT UP. Vous avez été journaliste, notamment à Tétu. Vous avez fondé des médias comme YAG et Comitit. Je vais renvoyer nos auditeurs à l'épisode qu'on avait consacré à votre parcours de journaliste et de militant la saison dernière. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous présenter l'équipe qui va nous accompagner ce soir, à commencer par celles qui se sont donc plongées dans l'histoire de la lutte contre le VIH-SIDA pour préparer cette émission. Voici Zoé et Chat. Salut à vous deux.
Salut Colin.
Salut Colin.
Ça va?
Super.
Côté chronique, c'est le retour d'Ayélène d'abord. Comment vas-tu, Ayélène?
Yo Colin, ça va super.
Les micros se baladent car il n'y en a que 5 alors que nous sommes 126 dans ce studio. De quoi on parle ce soir, Ayélène?
Alors, pour rester aux États-Unis, je vous présente une chronique culturelle, pas très réjouissante.
Très bien, on verra ça dans une dizaine de minutes juste après, enfin un petit peu plus tard dans l'émission. Ce sera le tour de Cléo, une nouvelle voix mais pas si nouvelle. Salut Cléo.
Salut, ce soir on va parler des imaginaires queer à travers un petit livre absolument génial, je ne vous spoile pas.
Très bien. Et puis en fin d'émission, fidèle parmi les fidèles, voici Mal. Salut Mal.
Bonsoir.
D'ailleurs, d'où ça vient ce prénom Mal?
Eh bien, ça vient de moi, merci. Je vous en parle en fin d'émission.
Vers 20h55, aux alentours de 20h40, l'agenda avec, je cite, notre impétueux drama queer Sam. Salut Sam.
Salut Colin.
De quoi on parle? Qui est ton invité?
De danse, on va inviter Amar, on va parler d'un ballet queer.
Et ben voilà, rendez-vous en fin d'émission. Vous avez le programme de cette émission réalisée par Suzanne Cinca. On est ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9 FM.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Et merci d'être avec nous. Alors Donald Trump est de retour à la Maison Blanche depuis un peu plus de 2 mois et avec lui un slogan, America First, l'Amérique d'abord. C'est au nom de ce slogan que la nouvelle administration a décidé de réduire de 83% le financement de l'USAID, donc l'organisme d'aide humanitaire internationale américaine qui représentait 0,4% des dépenses publiques aux États-Unis. L'USAID finance des milliers de programmes d'aide au développement à travers le monde contre la famine, la tuberculose, pour l'émancipation des femmes et donc pour la lutte contre le VIH-SIDA, avec notamment le programme PEPFAR créé en 2003. Le PEPFAR qui est donc provisoirement suspendu, pas encore définitivement arrêté. Peut-être Dominique Costagliola, pour commencer, en quoi est-ce que c'était un programme peut-être indispensable?
C'est un programme qui permet l'accès aux antirétroviraux, que ce soit en termes de traitement ou en termes de prévention, la PrEP, dans un certain nombre de pays d'Afrique, avec des niveaux variables. Et à certains des pays, c'est 100% des antirétroviraux viennent avec ce programme, d'autres moins. Et en fait, c'était au fond le donneur d'ordre, mais sur le terrain, l'organisation pratique, elle était en général financée dans le cadre du USAID. Donc les deux sont quand même liés. Et maintenant, comme on a tout cassé, voilà, on a cassé les œufs et on ne va jamais réussir à les remettre comme ils étaient avant, à l'évidence. Il y a un site qui s'appelle pepfar.impactcounter.com qui recense l'estimation du nombre de décès engendrés par la suspension. Mmh. Et ça veut dire que quand on regarde l'ensemble du monde, 90% de la PrEP était financée dans le cadre de PEPFAR. Mmh.
Donc la PrEP, ce traitement prophylactique.
Oui, alors que par exemple, bien sûr, dans notre pays, ce n'est pas PEPFAR qui finance la PrEP. Hein, donc on ne compte pas la PrEP, la diffusion de la PrEP dans les pays du Nord. Mais ça veut dire que dans le monde entier, ça représentait 90% de la PrEP. Mmh.
Et d'ailleurs, je précise un peu en contrepoint de ce que vous disiez sur l'impact de PEPFAR et l'impact négatif de sa disparition, que sur le site de PEPFAR, l'organisme annonce qu'il aurait contribué à sauver 26 millions de vies depuis son existence en 2003.
Ils avaient fait un bilan pour les 20 ans,
voilà.
Donc quelque chose qui était assez triomphant, assez positif. Mmh. C'est un programme qui a été mis en place à l'époque de Bush fils, donc par des républicains. Hein. Et voilà, c'est une catastrophe, notamment pour les pays qui dépendaient entièrement de ce programme pour l'accès aux antirétroviraux. En même temps, ça illustre finalement qu'il faut sans doute réfléchir à des programmes de développement de façon différente pour éviter qu'un pays se retrouve dans cette situation. Il va falloir qu'on imagine des solutions. Et bien sûr, il y a aussi un enjeu autour de la reconstitution du Fonds mondial dans ce contexte, extrêmement important, pour voir comment les autres pays finalement s'organisent, parce qu'on imagine aussi que les États-Unis ne participeront plus ou pas à ce programme dans le futur.
Et qu'est-ce que son arrivée a représenté pour vous à l'époque, vous qui luttiez déjà contre le VIH depuis une vingtaine d'années, donc en 2003, l'une en tant que biologiste et vous, Christophe Marté, en tant que militant et personne vivant avec le VIH, pardon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce moment ?
Ce qui est sûr, c'est que le PEPFAR, en parlant avec pas mal d'activistes, je pense à Marie de Sénival, qui a travaillé beaucoup sur l'accès aux traitements, et notamment les traitements génériques au sud, dans le sud global, elle me racontait qu'effectivement, le PEPFAR, c'était l'efficacité américaine vraiment à 100%. Et quand il décidait de quelque chose, il le faisait. Voilà, on n'était pas dans la discussion pendant des mois. Et comme l'a dit très justement Dominique, bah, très clairement, énormément de pays comptaient sur le PEPFAR pour leur accès au traitement et l'accès notamment aux médicaments génériques à un certain moment. Et après, un peu plus tard, sur la PrEP. Et je voudrais souligner par rapport aux études qui sont actuellement publiées, par exemple, il y a celle du Lancet récemment qui a montré l'impact, on va peut-être en parler, l'impact qu'auraient les mesures prises par Trump contre USAID et contre PEPFAR sur les nouvelles infections et les décès supplémentaires causés par cette décision.
Oui, je lisais sur le site de MSF, donc Médecins sans frontières, en Afrique du Sud, de nombreuses cliniques fournissant des services VIH, notamment les tests, les traitements et donc la PrEP, vous en parliez, hein, Dominique Costagliola, avec des organisations financées par PEPFAR ont été fermées. Au Mozambique, un important partenaire de Médecins sans frontières qui offrait des services VIH complets a dû cesser toute activité. Ce qui est important quand même, faut insister là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est plutôt des pays d'Afrique, en tout cas pas des pays du Nord, qui vont être impactés, qui sont déjà impactés. Je ne sais pas si on sait quelque chose déjà des conséquences actuelles, en tout cas par cette décision.
On voit déjà, ça a été montré à la CROI, la conférence américaine du SIDA qui s'est tenue au début du mois, on voit déjà des gens dont les cliniques ont été fermées, des gens qui témoignent que ils en avaient eu juste avant, donc il leur reste 6 mois d'antirétroviraux et après ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux. Vous voyez, des jeunes adolescents, c'est absolument crève-cœur, quoi. Et puis, un des plus aussi, c'était que les activités qui étaient financées dans ce cadre-là, il fallait qu'il y ait des données qui soient collectées, qui permettent de pouvoir suivre quel impact ça avait, notamment les estimations qu'ils ont produites à l'occasion des 20 ans du programme. Donc, par exemple, c'est une des choses qui a permis d'avoir une alerte sur éventuellement l'exposition des fœtus au dolutigravir, qui est un des médicaments antirétroviraux antirétrovirale pour le monde, quoi. Donc ça a lancé l'alerte pour le monde d'avoir ces données-là. Donc ça veut dire qu'on aura plus de visibilité, plus dans un certain nombre d'endroits, plus aucune visibilité sur qu'est-ce qui se passe pour les personnes vivant avec le VIH à l'heure actuelle.
Christophe Arthé, vous
voulez dire ? J'ai regardé une enquête de Coalition Plus. Donc Coalition Plus, c'est une réunion d'une plus de 110 organisations dans plus de 50 pays, d'associations communautaires de lutte contre le VIH-Sida. Et ils ont mené une enquête. Et parmi les personnes qui ont répondu à cette enquête, un très grand nombre sont déjà impactés d'une façon ou d'une autre, que ce soit les programmes de prévention, que ce soit des postes, par exemple, de médiateurs, médiatrices en santé qui sont supprimés. Donc ça désorganise complètement les associations. Et c'est là où on voit que ce que je trouve d'autant plus rageant et cruel et triste, c'est que on a certains de ces pays d'Afrique, je pense à la Tanzanie, Botswana, au Rwanda, j'en oublie, qui ont atteint les fameux 3,95. Hein, 3,95, c'est-à-dire 95% de personnes séropositives qui connaissent leur statut, 95% qui sont traitées et 95% qui sont en charge virale indétectable. Certains de ces pays, à travers, y compris l'aide internationale, et beaucoup grâce à l'aide internationale, avaient atteint ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'en gros, dans ces pays-là, on contrôle l'épidémie. Et on y met fin dans peu de temps. Il y aura toujours quelques personnes, enfin voilà, des personnes qui se contamineront, mais voilà, on n'est plus dans une épidémie telle qu'on l'a connue. Eh bien, on peut craindre que ces pays, y compris dans ces pays-là qui avaient réussi à maîtriser l'épidémie, il y a un backlash énorme, un retour en arrière énorme. Et c'est ça qui est dramatique parce que là, on parle de vie humaine, on parle de personnes.
Et justement, parce que tout à l'heure, Dominique Costaldula, vous nous disiez qu'il va peut-être falloir trouver d'autres manières de financer la lutte contre le VIH-Sida. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui se passe dans l'actualité en ce moment. C'est la suspension aussi par l'administration Trump de l'aide financière à l'Ukraine. Ce à quoi l'Union européenne a décidé de répondre, hein, quitte à briser le tabou du surendettement, comme en Allemagne, où c'était quelque chose d'assez important. En France, on a même eu le droit, de la part d'Emmanuel Macron, à un discours presque guerrier, parlant de menaces sur notre prospérité. Donc l'Europe vient en aide à l'Ukraine. Alors je ne vais pas me prononcer sur est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas. Je me garderai bien de commenter la politique de défense américaine. En revanche, l'Europe ne semble pas décidée à compenser la disparition de ses programmes d'aide humanitaire et de financement de la lutte contre le sida. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être, Christophe Martet, de la manière dont les personnes vivant avec le VIH sont encore perçues aujourd'hui ?
Bah, clairement, c'est vrai que depuis quelques années, le VIH n'est plus quand même en tête des priorités de la santé publique. On a même vu certains organismes en France changer de nom. Hein, le Conseil national du SIDA devient le Conseil national de la santé sexuelle. Les Corévi, qui avaient vie dans le VIH dans leur nom, deviennent les Corès. Hein,
on revient à une forme d'invisibilisation.
On invisibilise d'une certaine façon. Et ben, qui dit aussi invisibiliser, dit moins d'argent, moins de moyens. Et on le voit bien. Donc c'est vrai que il y a la nécessité de remettre, on a écrit une tribune récemment avec plusieurs personnes concernées dans l'UMA sur ça, pendant le SIDAction, pour dire qu'il y a une nécessité de remettre le VIH en tête des priorités, parce qu'on peut y arriver. Surtout, c'est pas tellement de se dire bah, pourquoi ce serait la priorité par rapport à d'autres maladies, parce qu'on sait qu'on peut y mettre fin, là, avec ces mesures dont j'ai parlé, notamment les 3,95, la prévention combinée.
C'est ça, on a les outils. Et effectivement, il y avait une réussite dans un certain nombre de pays, et ils sont caractérisés vraiment par le fait qu'il y avait eu une volonté politique locale aussi, bien entendu, c'est pas juste au hasard. Hein. Et du coup, quand même, le fait de pouvoir avoir des ressources pour s'organiser. Et là, en fait, on va repartir en arrière.
20 ans en arrière, disait la présidente de SIDAction.
On va voir bien sûr des décès, mais aussi des nouvelles contaminations. Vous voyez, de façon ridicule, ils ont dit « Ah oui, mais on va autoriser les antirétroviraux pour la prévention mère-enfant. » Mais les femmes, quand elles ne sont pas enceintes, tant pis pour elles. Quoi, hein, vous voyez, c'est une façon ridicule de considérer le problème. Et on voit bien que en France aussi, finalement, ça fait 2 années que l'AFD voit son budget diminuer. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir, entre guillemets, compenser dans certains pays ou proposer des organisations pour réussir à rechanger la donne face à ça. C'est ce côté de retour en arrière, c'est vraiment un crève-cœur.
On va continuer à en parler dans un instant. Je le disais en introduction de cette émission, la suspension du financement de l'aide humanitaire américaine n'est pas la seule mauvaise nouvelle en provenance des États-Unis. Hélène, avec toi, on parle des conséquences du retour de Trump au pouvoir sur la culture.
Effectivement, on reste aux États-Unis parce que j'avais envie de vous parler d'un décret signé par Donald Trump le jeudi 27 mars et qui concerne les musées. Alors vous vous en doutez, si je cite Trump et décret dans la même phrase, ça n'annonce rien de bon et vous avez raison puisque la situation est assez alarmante. Alors ce décret tout d'abord s'intitule Restoring Truth and Sanity to American History, restaurer la vérité et la raison à l'histoire américaine. Dans celui-ci, Donald Trump s'indigne. Selon lui, depuis une décennie, les musées sont imprégnés d'une, je cite, « idéologie de la race » qui met à mal les valeurs de la nation états-unienne, de liberté, de droits individuels, tout cela pour reconstruire l'histoire d'une nation comme intrinsèquement raciste, sexiste et oppressive. Alors si ce décret n'est pas complètement surprenant, pendant sa campagne électorale, Donald Trump s'était par exemple engagé à supprimer les financements fédéraux pour les établissements scolaires qui intégreraient ce qu'il nomme comme cette idéologie de la race et de la théorie du genre. Elle n'en est pas moins inquiétante. En effet, ce décret cible tout particulièrement les musées de la Smithsonian Institution. La Smithsonian Institution, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une institution de recherche scientifique créée en 1846, qui est aujourd'hui associée à un vaste complexe de 21 musées, 21 bibliothèques, 14 centres de recherche et d'éducation et un zoo, principalement situé à Washington, D.C. Mmh. Cette institution est gérée par son organisme fondateur, le gouvernement fédéral américain, dans un contexte où, aux États-Unis, les musées sont majoritairement gérés avec un statut privé. Mmh. Alors, quelles conséquences ? Eh bien, ce décret signé par Donald Trump vise véritablement à encadrer le contenu des musées de la Smithsonian. Trump a chargé son vice-président, J.D. Vance, qui siège au conseil d'administration de la Smithsonian Institution, de cette mission. Il pointe précisément du doigt certaines initiatives portées dans des musées, mettant en lumière le caractère raciste et transphobe de ce décret. Par exemple, le projet de création du Smithsonian American Women's History Museum est mentionné, notamment une future exposition qui, d'après ce décret, a prévu de célébrer les exploits d'athlètes masculins participant aux compétitions sportives féminines. Ce décret cible d'ailleurs particulièrement ce musée qui, je cite, doit célébrer les accomplissements des femmes et en aucun cas reconnaître des hommes comme des femmes. Il ferait ici référence au vécu de personnes transgenres et non-binaires qui seraient présentées dans cette future exposition. Ce que l'on peut craindre vraiment, c'est une véritable censure en termes de programmation dans les musées de la Smithsonian, que ce soit en termes d'événements, d'expositions, et qui aurait des conséquences directes sur le travail de commissaires, la possible déprogrammation aussi d'artistes au discours militant, queer et antiraciste. C'est aussi un décret qui viendrait défaire des initiatives muséales portées vers des logiques d'inclusion et de visibilisation de minorités, comme celle du National Museum of African American History and Culture, inauguré en 2016 par Barack Obama, qui est le plus grand musée au monde consacré à l'histoire des cultures africaines-américaines. Se pose donc la question, quel avenir pour la visibilisation des minorités queer et racisées dans les musées aux États-Unis ?
Merci beaucoup à Hélène. Bah oui, excellente question, on pourrait en faire toute une émission. L'administration de Trump, ça m'y fait penser. Forcément, Dominique Costagliola, c'est aussi une attaque sans précédent contre la recherche scientifique, contre la liberté académique. Désormais, mal, je crois, en parlait le mois dernier, des mots comme genre, LGBT, climat ou même femme, tout simplement, sont interdits dans les articles scientifiques. Vous avez signé une tribune dans Le Monde appelant, je cite, à défendre les sciences face aux nouveaux obscurantismes. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision ? Plus précisément sur la recherche et la lutte contre le VIH-Sida.
En termes de VIH-Sida, hein, ils sont en train de démanteler l'office VIH-Sida au ministère de la Santé. On peut craindre un arrêt de financement de tout ce qui concerne la recherche sur les vaccins, de tout ce qui concerne la recherche sur HIV-Cure. Donc HIV-Cure, c'est rechercher des traitements qui guériraient de l'infection à VIH, pas juste qui permettrait de la contrôler, mais qui permettrait de la guérir. Vous voyez, quand vous interdisez quoi que ce soit, vous n'aurez plus le droit d'utiliser dans un programme de recherche les populations clés. Mais dans le domaine de l'infection à VIH-Sida, il y a des populations qui sont plus à risque. C'est elles qu'il faut atteindre si vous voulez contrôler l'infection à VIH. Eh bien, vous ne pourrez plus déposer de projet de recherche dans lequel ça pourrait être mis comme un objectif. Donc ça veut dire que tout ce qui est, y compris l'implémentation, quand on a trouvé des nouvelles, vous voyez, comme la PrEP, ça ne suffit pas de dire on a la PrEP, il faut voir comment on va le distribuer aux personnes concernées, comment on les approche, comment on arrive à les faire venir, comment on leur... comment réellement comment ils peuvent s'en saisir. Bon, bah, tout ça va être absolument condamné. Et donc, vous voyez, un truc symbolique. Il n'y a plus de MMWR. 81, c'est dans le MMWR que sont décrits les premiers cas, mmh, en juin. Et ben, pas de MMWR, pas de VIH-SIDA. Vous voyez, c'est presque comme ça. Et il faut savoir que le ministre de la Santé, RFK Junior, là, c'est un dénialiste. C'est quelqu'un qui pense que le VIH ne cause, ouais, pas le SIDA. Hein, mmh. Donc on en est encore là. On est retourné au temps de Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Mmh. Mais malheureusement, on n'est pas sûr qu'il va y avoir un Mandela pour lui dire de changer, oui, ses positions.
Ça. Oui, c'est le problème. Et déjà en 2003, quand sous l'administration Bush, on a enfin eu ce programme PEPFAR, ça faisait déjà 20 ans que, en fait, la recherche était un petit peu stoppée là-dessus, en tout cas les financements, parce que c'était pas assez rentable. Moi, la question que je me pose finalement, c'est que dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut lutter contre une maladie infectieuse comme le VIH dans un contexte où finalement le soin, c'est une marchandise, en fait.
Oui, ça, d'une façon générale, presque pour toutes les... Enfin, à mon avis, c'est la santé, d'une façon générale, même des Américains, hein, qui est en jeu. On voit bien qu'il y a des attaques. Par exemple, vous voyez, les gens qui ont eu un contrat de soldat, dans ce qu'on appelle les vétérans, hein, ça veut dire qu'ils gagnent un système de protection de santé à vie, qui, aux États-Unis, n'est pas tellement commun, surtout que c'est souvent des gens qui viennent de classes relativement défavorisées et qui passent par là parce que ça leur permet justement de progresser. Donc là, on est en train de démanteler leur système de santé. Moi, j'ai des collègues qui ont une cohorte de personnes vivant avec le VIH dans ce cadre-là, avec qui je travaille de longue date. Ben voilà, on leur a écrit en leur suggérant de démissionner. Et sur cette partie-là de leur activité, ils n'ont pas le droit de voyager, pas le droit de communiquer, pas le droit de rien faire. Hein. Donc voilà, c'est une situation absolument ubuesque. Et les attaques sont particulièrement ciblées contre la recherche sur le réchauffement climatique et sur la santé, vraiment de façon claire. Mais ça impacte l'ensemble de la recherche, parce que, y compris le fait que le NIH ait décidé que désormais, alors ce n'est pas encore en vigueur, mais... Il voulait limiter les coûts indirects. Quand on fait un projet de recherche, on a l'argent qui va directement au projet de recherche, mais les gens, ils ne sont pas dans l'air. Ils sont dans un labo, ils ont des infrastructures, il faut payer le téléphone, il faut payer les instruments pour faire les manips, etc. Et c'est à ça que ça sert à financer les coûts indirects. Les universités américaines avaient négocié avec le NIH, selon les universités, entre 25 et 70% de coûts indirects. Si on les capte, ça veut dire que ça diminue le budget des universités, quelle que soit la thématique de recherche. Il y a plusieurs universités qui ont interrompu les programmes de recrutement des nouveaux doctorants pour cette année parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mmh. Alors bien sûr, il y a des plaintes qui ont été déposées. On ne sait pas vraiment comment ça va se tourner parce qu'il y a aussi des attaques contre le système judiciaire en parallèle. Hein. Mais voilà, c'est un chaos absolu dans le domaine de la recherche d'une façon générale, en ciblant plus particulièrement, effectivement, comme j'ai dit, climat et santé. Et avec le côté que, voyez, si vous faites... par exemple, vous n'aurez plus le droit de travailler sur l'impact des inégalités sociales sur la santé. Mmh. Alors que, voyez, il suffit de voir l'espérance de vie, même en France, oui, la gigantesque différence qu'il y a en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Tout ça va être interdit. Donc, voyez, on repart en arrière, on est dans le côté de la servante écarlate, quoi.
Et d'ailleurs, du coup, l'annonce de la suspension de l'USAID semble avoir ravivé la mémoire communautaire, qui garde encore les traces de cette épidémie, évidemment. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle épidémie du sida, ou en tout cas vers une sorte de rebond épidémique à l'échelle mondiale ?
Ben, je pense qu'on peut le craindre, hein, parce que comme même le temps de trouver des solutions, quoi, voilà, là, les choses, elles ont été démantelées, l'œuf, il est cassé, hein, on ne va jamais le remettre comme il était. Donc ça, forcément, au minimum, va y avoir un burst et peut-être vraiment ça repart. Et puis du coup, évidemment, ça ne reste pas cantonné. Hein, aucune épidémie reste cantonnée dans un coin. Hein, le monde n'est pas imperméable.
Christophe Martin. Oui, je fais un peu un pas de côté par rapport à la chronique sur la culture. culture. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu pendant l'épidémie de sida à quel point les artistes à la fois ont été impactés et touchés, mmh. mais aussi à quel point l'art a aussi contribué à la prise de conscience. Je veux dire, les t-shirts de Keith Haring ou d'autres exemples de création artistique ont vraiment contribué à la visibilité de cette épidémie.
On peut d'ailleurs renvoyer à notre émission avec Elisabeth Lebovici qu'on a reçue il y a deux ans.
Et je sais à quel point, moi, en tant que personne vivant avec le VIH, c'est important l'art. Mmh. Et je ne serais pas surpris que dans quelques temps, on nous propose aux États-Unis une exposition type l'art dégénéré, comme l'ont fait les nazis pour critiquer tous les artistes de cette époque. Et on voit à quel point le fait d'invisibiliser aussi les artistes et les problèmes sociaux que soulignent les artistes, c'est aussi encore une... Enfin, tout s'ajoute, quoi. Je veux dire, c'est pas juste une action, c'est tout. Il veut tout supprimer notre système, oui, de valeurs et de notre système aussi économique.
Allez, ça, c'est pas de l'art dégénéré, en tout cas. Est-ce qu'un jour, je serai assez pour mes parents ? Se demande Bon Fils dans ce premier titre sorti au mois de février. Voici Un Bon Fils.
Dans la masse, c'était même le contraire. Attiré par les strass pour poignées de paillettes, j'aurais vendu ma race, sorti une mitraillette au milieu d'une terrasse pour pas faire comme tout le monde. J'étais même prêt à tout asperger la Joconde de mes torrents de boue. L'odeur nauséabonde, je crois qu'elle venait de nous. Génération quelconque, pour elle-même n'est qu'un loup. Génération pourrie par génération d'avant. On a tout, elle a dit, tu dois en faire autant. Génération pourrie d'avoir rêvé trop grand. Est-ce qu'un jour je serai assez pour mes parents? Un bonhomme, un bon fils, quelqu'un qui réussit. Un album platinum au-dessus de son lit. Un rooftop ou non-stop, les beaux mecs défilent. Me disent que je suis top et tombe le textile. Un bonhomme, un bon fils, un lover, un voyou. Quelqu'un pour qui l'ennui n'est pas une corde au cou. Un bonhomme, box office, un talent touche à tout. Un bonhomme, un bon fils, enfin un bon époux. Un père, un édifice, plus jamais à genoux. Un bonhomme au service de ce qu'il a cru, c'est tout. Qui aimerait sans limite, qui donnerait sans surcoût. Un bonhomme, un bon fils, un bon père, je sais plus. Il faudrait que je sois tous les jours un peu plus, et le meilleur de moi. Un bonhomme, un bon fils. Vraiment quelqu'un de bien, jamais quelqu'un d'heureux, jamais un homme moyen. Devenir pour les autres ce qu'ils avaient prévu. C'est passer à côté de soi, c'est devenir inconnu. Un bonhomme, un bon fils, quelqu'un qui réussit. Un album platinum au-dessus de son lit. Un rooftop ou l'instap, les beaux mecs le défilent. Me disent que je suis top et tourne le textile. Un bonhomme, un bon fils, un lover, un voyou. Quelqu'un pour qui l'ennui n'est pas une corde au cou. Un bonhomme, box office, un talent touche à tout. Un bonhomme, un bon fils.
Un bon fils, c'était tout simplement Bon Fils sur Radio Campus Paris.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Yeah. Et nous sommes toujours en compagnie de Dominique Costagliola, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences qui travaille sur le VIH depuis 1986, ai-je lu. Et Christophe Martet, personne vivant avec le VIH, président de l'association Paris et Seine-Saint-Denis sans sida. L'information sur le sida, c'est le pouvoir. C'était l'un des slogans d'Act Up Paris, information égale pouvoir. Et bien plus de 40 ans après les premiers cas de VIH, force est de constater que l'information, elle manque encore chez certains. Et certaines.
Oui, oui. Alors, selon le sondage OpinionWay mené cette année pendant le site d'Action, 78% des 15 à 24 ans s'estiment bien informés sur le VIH. Pourtant, 36% pensent qu'on peut contracter le VIH en s'asseyant sur un siège de toilette, c'est-à-dire plus 11 points par rapport à 2023. Ça veut dire que ça a augmenté, cette croyance. 42% pensent qu'on peut le contracter en embrassant une personne séropositive. Ça augmente de 12 points. Ou encore 31% en buvant dans le verre de la personne concernée, c'est-à-dire une avance de 6 points. Donc on voit quand même que là, on a un gros recul de la connaissance. Dominique Costagliola, pourquoi un tel recul à une époque où on a pourtant davantage accès à l'information ?
On n'a pas de vraie campagne d'information et on n'a rien qui se passe dans les écoles à ce propos-là. De toute façon, dans les écoles, il n'y a aucun budget pour faire de la prévention, même faire ce qui est obligatoire en termes de consentement, de voilà. Donc on est dans une situation assez catastrophique, hein, et par ailleurs, finalement, l'information qui est disponible, les réseaux sociaux et tout ça, il n'y a aucune garantie que ce qui est transmis ait une valeur quelconque. Tout a la même valeur. Les gens qui racontent n'importe quoi, comme les gens qui disent des choses pertinentes. Donc, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver dans cette jungle, je pense.
Et on le voit notamment parce que là, on a eu des grands débats sur autour de l'EVARS, donc vous savez, ce programme d'éducation à la vie sexuelle et affective et romantique. Pardon, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais bon, vous comprenez. On a évidemment toutes ces coupes budgétaires qui touchent aussi les services publics, notamment l'éducation, mais aussi le système médical. Est-ce qu'on peut encore lutter efficacement contre le VIH en France ?
Oui, enfin, en tout cas, tout le monde est là pour ça et on essaie de le faire au maximum. Notamment, je pense, en termes, on parlait d'information, on avait fait une grande campagne sur Paris et la Seine-Saint-Denis, donc nos deux territoires d'action, en fin 2023. On avait fait aussi un sondage qui montrait que peu de gens étaient au courant que la PrEP était un traitement préventif, que le fait qu'une personne séropositive en traitement, les charges véritables, ne transmet plus le VIH. Et ça, voilà, enfin, il y avait une méconnaissance de ça et c'est pour ça qu'on... Mais je pense qu'il faut à la fois des campagnes, comme l'a dit Dominique, grand public, et le site d'action sert aussi à ça, mais aussi des campagnes ciblées sur les populations, ce qu'on appelle, nous, les populations clés. Je pense en particulier à Paris, aux personnes gays, bi et autres hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, mais aussi, bien sûr, aux personnes migrantes, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux personnes trans, parce que c'est nos populations clés. Mais oui, on peut continuer, on doit continuer à le faire, parce que pareil, on n'est pas non plus loin du but, donc il faut continuer.
Vous parliez des 3,95 d'ailleurs. Est-ce que Paris et la Seine-Saint-Denis sont dans ces territoires-là?
Alors, on n'en est pas loin. Mm-hmm. En tout cas, sur les deux derniers, on y est. On a même dépassé ça. Mais il reste le premier 95 sur le dépistage, où on a encore un peu de travail. Mais je pense qu'on y est. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. D'ailleurs, nous, on va se mobiliser à la fin de l'année, on en reparlera. Parce qu'il faut continuer justement avec peut-être de nouveaux indicateurs, avec peut-être de nouvelles priorités pour les associations communautaires pour avancer sur ces sujets. Oui.
C'est complexe en même temps parce qu'effectivement, en fait, je crois qu'effectivement la population, elle ne sait pas que quelqu'un qui est sous traitement, ne peut pas transmettre. Oui. Vous voyez, c'est quand même une connaissance qui serait importante que les gens aient.
On va le rappeler d'ailleurs, puis, ce que ça veut dire. Donc, charge virale indétectable, ça veut dire que je ne peux pas transmettre le virus. Voilà. Je peux avoir, par exemple, des rapports sexuels non protégés, je ne pourrais pas transmettre le VIH.
S'il y avait des cas, ils seraient documentés dans la littérature, je peux vous dire. Et voilà, on n'en a pas sous la main. Il y en a eu quelques-uns qui ont été racontés, mais qui n'étaient pas concluants jusqu'au bout. Hein, donc, voilà. Et puis qu'il existe des outils qui permettent d'éviter effectivement de l'acquérir. Après, le problème, il est vraiment dans comment je rejoins les gens qui sont concernés. Dans les personnes qui sont très à risque, on a des populations migrantes, que je sois à Seychelles ou femme africaine. Et eux, on voit bien que quand ils sont... On a maintenant des données qui montrent que quand même, en majorité, les personnes s'infectent en France. Elles ne viennent pas en étant infectées, contrairement à des disons ce que racontent certains politiciens. Mais elles s'infectent en France et parce qu'elles sont dans une situation de très grande vulnérabilité quand elles arrivent, d'avoir un endroit où dormir, d'avoir de quoi manger, etc., qui les met évidemment en situation de fragilité par rapport au risque. Et aussi parce que du coup... La préoccupation de prévention, c'est pas dans leur paysage mental. Vous voyez, leur paysage mental, c'est de survivre au jour le jour. Donc ça, c'est particulièrement difficile. Et c'est là où il y a encore des efforts à faire, vraiment. Mais sans ça, les outils, vraiment, on les a.
Et c'est pour ça que nous, on mène énormément d'actions. Alors, on finance beaucoup d'actions avec des associations communautaires migrantes. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, j'ai envie de citer Bamesso et ses amis, qui est une association de personnes concernées africaines. Et on mène des candidats à l'EVERS. C'est-à-dire, vraiment, on est là où sont les gens. On leur dit pas, allez au centre de dépistage ou
rendez-vous. On va chercher ceux qui sont éloignés du soin.
On va dans les centres de domiciliation, dans les distributions de soupes populaires, dans les hébergements d'urgence, etc. Parce que c'est là où sont les personnes. Et il faut aller vers elles pour vraiment être efficace.
Et sur les 200 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, on estime qu'il y en a 24 000 qui l'ignorent. Comment on peut expliquer ce chiffre ?
Alors le chiffre a peut-être changé de
minute. Oui, les estimations sont plutôt un petit peu plus faibles, ouais. Plutôt aux alentours de 10 000. Parce que au début, c'est quelque chose qui n'est pas... il n'y a pas de symptômes. Il peut y avoir des symptômes au moment de l'infection, mais qui après, dans les premières années, ne vont plus être là. Et donc, à nouveau... Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas réussi à faire beaucoup de progrès. Au moment du diagnostic, il y a toujours environ un tiers des gens qui sont au stade SIDA ou avec déjà un taux de CD4 à moins de 200, ce qui montre que ça fait plusieurs années en fait, qu'ils sont infectés. Et c'est crucial qu'on fasse diminuer ça, qu'on réussisse à trouver un moyen de diminuer ça, parce qu'au fond, c'est quand vous ne connaissez pas votre statut que vous êtes susceptible de transmettre. Parce que en général, les gens, quand ils connaissent leur statut, ils n'exposent pas les autres, beaucoup moins. Et puis, comme on a dit, s'ils sont traités, ben voilà, il n'y a plus de problème. Donc finalement, le clé finalement de réduire les nouvelles contaminations, c'est de pouvoir agir sur cette situation de gens qui sont pendant très longtemps infectés alors qu'ils l'ignorent.
Oui, c'est un des paradoxes aussi de cette épidémie, il y en a eu beaucoup, mais qui est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais autant de personnes vivant avec le VIH en France, mais elles sont invisibles. Moi, je prends souvent l'exemple pour la question LGBT, on voit dans les séries de plus en plus de personnes, on en aimerait encore plus, et que ça, mais qui sont lesbiennes, et ce n'est pas le sujet du film ou de la série, qui sont trans, etc. Bon, trans un peu moins. Voilà. Et par contre, on n'a jamais de situation, de scénario dans lesquels on montrerait des personnes, ben voilà, elles prennent leur traitement. C'est pas le sujet, mais elles sont là, elles existent, parce que 200 000 personnes, c'est pas rien. Et ne serait-ce aussi la visibilité, le discours des personnes vivant avec le VIH n'est pas beaucoup entendu. C'est pour ça, moi, je veux saluer souvent Florence Thune, la directrice de SIDAction, parce que c'est une personne vivant avec le VIH. Elle vient d'ailleurs de recevoir la Légion d'honneur. Voilà, parce que c'est des personnes qui, justement, aussi permettent de donner un visage à l'épidémie, mais aussi de montrer à quel point... on vit avec le VIH et on peut vivre une vie normale avec le VIH. Voilà, moi, ça fait 40 ans, ouais, cette année que j'ai fait le test. Bon, ben voilà, je suis encore là. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été facile, hein, il y a eu des hauts et des bas. Mais quand même, il faut répéter aux personnes que c'est important de connaître son statut. Certes, ce n'est pas la meilleure nouvelle de l'année, mais au moins, vous savez que vous allez pouvoir faire des choses.
Eh ben, merci beaucoup. On est à la radio, donc vous n'aurez pas donné de visage aux personnes vivant avec le VIH, mais au moins, vous leur aurez donné une voix. Merci beaucoup, Christophe Martet, président de Paris et Seine-Saint-Denis sans SIDA. Et merci beaucoup, Dominique Costaiola, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences, d'avoir été avec nous. On est déjà très en retard, alors je dois lancer Cléo. Cléo, on l'a compris, le monde va mal. Les nouvelles qui nous arrivent, notamment des États-Unis, ne sont pas bonnes. On l'a vu pendant les 37 premières minutes de cette émission. Donc tu vas nous parler d'un livre qui va nous redonner l'espoir et même, nous dis-tu, envie de continuer à lutter.
Franchement, les amis, entre nous, on est d'accord que dernièrement, les petites lueurs d'espoir pour un avenir un peu plus joyeux ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Alors pour cette première chronique, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais vous raconter et j'ai essayé de me souvenir des choses qui me font du bien en ce moment. Et c'est là qu'un petit livre, ce fameux petit livre m'est revenu à l'esprit. Un petit livre au réconfort très puissant. Oui, je vous promets que ça existe. Le titre, c'est « Éloge des fins heureuses », un essai de la trop chouette autrice Colline Pierret qui a été réédité en 2023 aux éditions Daronne. Alors en résumé, dans ce petit bonbon littéraire, Colline Pierret nous embarque dans ses réflexions sur l'importance des fins heureuses dans la fiction, qu'il s'agisse des livres qu'on lit, des films ou des séries qu'on regarde. L'imagination, c'est la première forme d'action politique, affirme-t-elle. Eh bien moi, je suis hyper d'accord avec Colline. Et oui, je l'appelle par son prénom.
C'est ta pote.
Dernièrement, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à cette nécessité de réinventer nos manières de penser le monde, et ça passe justement par la fiction. Moi, j'avais envie de vous parler de tout ça parce qu'en ces temps plus qu'incertains, on a besoin, notamment en tant que personne queer de tous les âges, de réinventer nos imaginaires collectifs pour lutter contre le fascisme et contre ses déclinaisons. Donc je m'explique. D'abord, Colline Pierret, elle insiste sur l'importance de se nourrir des récits optimistes, sans pour autant basculer dans une forme de béatitude un peu naïve, même si ce serait complètement OK. D'ailleurs, elle regrette que certaines fins si tragiques des personnages qui nous accompagnent, par exemple dans un film, soit aussi facilement accepté par les gens qui le regardent. L'autrice affirme sans détour « Les fins tragiques, c'est de droite, bah ouais !» Quand tu fais échouer ton personnage, tu fais échouer une possibilité de désobéir à un énième destin funeste de, je sais pas, par exemple, un personnage queer genre Emilia Pérez ou dans Été 85, juste comme ça. Voilà. Bon, après, je vais pas vous refaire le topo sur l'importance d'avoir des représentations positives de personnages qui nous ressemblent pour se construire, notamment en tant qu'enfant. Mais en relisant ce petit texte de Colin Pierret, je me suis vraiment rappelée à quel point, en tant qu'adulte, ou presque, on en avait aussi besoin. Et ma partie préférée du livre, je crois que c'est quand l'autrice développe la nécessité de politiser les récits fictionnels. Elle dit « Si vous n'avez pas besoin de la fiction pour respirer, c'est que votre air a déjà été filtré par le néolibéralisme et le patriarcat. Allez, Colline, on leur dit. Les fins heureuses sont des armes politiques. Elles peuvent aussi devenir des instruments féministes d'émancipation. » Alors là, on pourrait croire qu'on enfonce un peu des portes ouvertes, mais pas du tout. Au final, les récits actuels sont très ancrés dans la réalité et on a besoin d'en sortir un peu pour réfléchir à la suite. Alors arrêtons de mépriser l'imagination optimiste. Ça m'a aussi semblé très juste quand elle dit que l'imagination, c'est un danger pour le pouvoir parce qu'elle permet, je la cite, de protester, de réfléchir, de se rebeller et d'envisager qu'il existe une autre possibilité que le réel. En fait, ce petit livre, il vient nous rappeler très justement que l'optimisme est politique et qu'il vient casser les codes bourgeois qui ont visiblement un gros kink sur la violence de certains récits des minorités, violence qu'elles ne subissent pas dans leur chair. Bref, il y aura encore mille choses à dire sur ce petit texte, mais je vous laisserai le plaisir de le découvrir ou de le relire. Ça fait du bien et franchement, on mérite.
Merci Cléo, t'as vu, les gens ont tellement hâte d'entendre le livre qu'ils nous appellent pour connaître les références. Alors est-ce que tu peux nous les redonner?
Oui, ça s'appelle Éloge des fins heureuses et c'est publié aux éditions Daronne et l'autrice c'est Colin Pierret.
Merci beaucoup. Dans un instant, plongeons dans le New York queer des années 79-85. On parle, oui, encore de VIH, mais cette fois-ci en dansant.
C'était quoi la question? Je n'ai pas la réponse. Parfois j'ai la pression, et je n'ai pas une once de mépris ou de dégoût pour ce corps que je sculpte. Je n'entends pas les insultes qui sortent des plaques d'égout. J'ai cherché bien longtemps dans la nuit sur Google de quoi riaient les gens quand ils voyaient ma gueule. Je ne crains pas la foudre ni les phares des voitures, car j'ai capté comment coudre sur mes propres blessures. Je n'ai plus peur de grand chose, j'ai la danse pour thérapeute. Ce monde en bleu et rose, je lui rendrai ses émeutes qu'il osa faire sur mon corps comme sur un vulgaire terrain. Je ne suis ni la cité d'or, ni la créature que l'on craint. Je ne rentrerai pas bien sage à l'intérieur de vos cases. Je casserai toutes les cages dans lesquelles vous m'enfermerez. Dans lesquelles je m'enfermerai. Si je devais choisir un genre, je choisirais le mauvais. Je dirais c'est le cri de l'oiseau quand...
La question, c'était Bilal Hassani dans cette chanson écrite par Martin Dust que vous avez sans doute croisé au Cabaret de Poussière à Belleville. Bilal Hassani qui vient de sortir un album live, L'Affreuse, une dizaine de chansons en piano-voix, toutes plus belles les unes que les autres. C'est bien sûr chaudement recommandé par l'équipe du Lobby.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say...
Le Lobby?
Susan... I'm gay.
Radio Campus Paris.
20h43 tout pile sur Radio Campus Paris et de la danse donc dans l'agenda du Lobby ce mois-ci, Sam.
Oui, alors on reçoit donc Amar qui est le créateur du spectacle Métamorphose. Donc allez voir au théâtre 12 le 28 et 29 avril. Bonsoir Amar, comment
bonsoir,
ça va?
Bonsoir Sam, bonsoir Colin, bonsoir tout le monde.
Ça va?
Ça va, merci. Et toi?
Oui, ça va. Donc, je voulais vous demander d'abord, par rapport à votre parcours, comment vous en êtes venu à créer ce spectacle?
Ça a été toujours un sujet d'inspiration, et que ce soit par le biais de la musique ou aussi au sein de la question des gender studies que j'ai étudié longtemps durant mes études. Ça a toujours été un point qui a toujours un peu clignoté dans un coin. Et ça s'est créé de cette manière, surtout par des travaux de recherche via les photos d'Alvin Baltrop. C'est une période qui m'a toujours inspiré pour sa richesse artistique Et c'était un peu l'occasion de vouloir mettre ça en scène, et par le biais de la danse, et de pouvoir raconter l'histoire de ces deux garçons, à la fois dans Faune et dans Mike, et de voir comment, justement, au vu de cette période, et dans cette frénésie, et cette effervescence, mais aussi cette crainte, comment leurs corps peuvent justement se mettre dans un certain mouvement, à la fois amoureux, à la fois sensuel, mais aussi face à un danger que personne ne peut, du moins à l'époque, savoir sur quoi il va découler.
Donc on l'a pas dit, mais c'est donc un ballet queer.
Exactement.
Ballet contemporain du coup. Donc ça, qu'est-ce que ça, enfin quelle est la différence entre un ballet contemporain et un ballet classique?
Disons que la danse, du moins que je propose, et je voudrais pas en faire une définition qui soit absolument globalisée pour tout le monde. Ce que moi j'entends par ballet queer, c'est surtout la manière avec laquelle j'exprime ma sensibilité en tant qu'artiste queer, et aussi par mes inspirations qui regroupent. Encore une fois, ce qui m'a formé en tant que comme, mais aussi en tant qu'artiste, et c'est aussi ce que je veux importer dans ce travail. C'est très théâtral parce que nous sommes des personnes théâtrales. On crave ça aussi dans notre manière de nous représenter. C'est aussi le lien avec la musique, le lien avec le costume, la manière de mettre ça en scène. Et c'est en ça que j'ai toujours eu un peu cette tendance à vouloir créer mes propres règles pour pouvoir m'affranchir des choses, que ce soit dans ma vie perso ou même dans mon travail. Je suis peu enclin à suivre un mode d'emploi, et généralement je construis le train avant d'avoir la gare. Donc je suis plutôt assez engagé dans mes idées, parce que même quand j'ai tort, j'ai indirectement toujours raison.
Évidemment.
Donc c'est un peu toute cette énergie là que je veux insuffler, et ironiquement l'histoire s'écrit de cette manière et ces personnages représentent ça.
Le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. On ne s'attendait pas forcément à l'entendre ni sur Radio Campus Paris, ni même dans cette émission. C'est la musique du ballet de Nijinsky, l'après-midi d'un faune. C'est une source d'inspiration centrale pour votre spectacle. Ouais. Un diptyque dont le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, s'appelle Faune. Dites-nous pourquoi, et surtout, pourquoi cette inspiration? Et pourquoi, et est-ce que surtout on peut venir assister à votre spectacle, même si on ne connaît pas du tout cette œuvre de Nijinsky?
Ah, absolument, absolument. Nijinsky, ça a toujours été une de mes inspirations quand j'ai été formé au ballet. Ça a été toujours un chorégraphe qui m'a plu. Le faune, ça a toujours été un caractère qui m'a toujours attiré par son ambiguïté, sa sexualité, mais aussi son air hyper candide et très taquin. Et j'ai certaines caractéristiques en commun avec ce personnage. Donc, il m'a jamais vraiment quitté. Et moi, je l'ai un peu transposé dans cet univers vraiment qui m'appartient plus. Donc, le faune, il a une perruque de cheveux bleus. Il est très camp d'une certaine manière. On n'est évidemment pas sur la musique de Debussy, mais.
Non, hein, c'est ça. Vous avez travaillé avec un autre compositeur.
Exactement, ouais. J'ai travaillé avec deux compositeurs qui s'appellent Jeff Guignon pour Faune et Ferdinand Bidlowski pour Mike. Ferdinand Bidlowski, avec qui j'avais déjà collaboré pour mon premier album. Et voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on va réaliser. On peut s'inspirer un peu de choses à droite à gauche. Et ironiquement, le ballet a été créé en Bourgogne initialement.
Dans oui, justement, une salle, je voudrais en parler un petit peu après.
Et dans une salle qui s'appelle la salle de Bussy. Donc c'était un peu full circle.
Ouais. moi, je voulais revenir sur les titres, parce que du coup, Faune, c'est écrit donc F-A-W-N, donc oui. Je suppose en rapport avec le setting à New York. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la signification de Faune et Mike?
Alors, en fait, j'aime bien les mots qui ont aussi des petits sens cachés. Faune, c'est donc le petit d'une biche. Mais en argot, c'est un homme qui se fait tellement surprendre par derrière qu'il il termine à avoir les jambes qui tremblent. Tu vois. Donc c'était ironiquement un peu sur ça, étant donné qu'en plus l'espace se passe dans un lieu de cruising dans les années 80 à New York, ça se termine dans un club, c'est très sensuel. Donc c'était un peu pour jouer sur
Puis c'est en rapport avec Alvin Baltrop.
Alvin Baltrop,
photos
bien sûr.
Assez explicite, on va dire.
Sublime photo, oui. Mm. Et c'est voilà, c'est pour ça. Et Mike, c'est dans un autre registre inspiré par la figure de l'archange Saint-Michel. Mm. Donc, Michel, Mike.
Gassifié finalement.
En soi, il y a un fil rouge que j'essaye de dire à tout le monde. Okay, donc, on vous le voyait. Et Mike, c'est donc là pour le coup, on est sur une histoire, une relation un peu toxique entre deux hommes, deux cardinaux, parce que why not?
Oui, exactement.
Et Mike, c'est un quart de LSD. Donc il y a toute cette ambivalence à chaque fois entre et Mike, c'est une rave dans la backroom du Vatican. Donc voilà,
ah,
on
wow.
est dans deux univers différents. Yes.
Mais qui se recoupent quand même.
Alors. Oui, parce que le troisième chapitre qui est en création va expliquer pourquoi, du coup, ils étaient tous dans le même endroit.
Est-ce que c'est une exclue?
Le troisième chapitre, ça va s'appeler Otto. Oh. Et Otto, c'est le cabaret dans lequel ces deux personnages-là évoluent. Et en fait, pendant que Otto fait son show, on a Faune et Mike qui sont dans deux espaces-temps qui sont les leurs, mais qui sont dans leur propre vie, quoi. Et c'est comme ça que tout ce petit monde se retrouve.
D'accord, mais incroyable. Ouais, Mais du coup, donc Faune, ça se passe entre 1979 et 1985, donc au moment du pic de l'épidémie du sida dont on a parlé dans tout l'épisode. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est comment on parle du sida à travers la danse, comment on fait la transmission à travers la danse.
Alors, ce que je voulais de base, c'était absolument pas entrer avec mes bottes de gars qui est né dans les années 90 et qui pourrait tout de suite apporter un jugement sur une période que moi-même, je n'ai pas traversée. Mmh. Et l'idée n'étant pas du tout de pouvoir me faire le témoin d'une chose que je n'ai pas vécue. Mais par contre, parce que j'ai étudié, parce que j'ai lu, parce qu'on m'a appris, voilà à mon tour ce que je peux dire pour honorer les personnes, pour honorer cette mémoire. Mmh. Chorégraphiquement, il était hors de question de jouer sur les stigmates, même s'il y a des présences de stigmates, mais plutôt en clin sur la religion catholique, qui justement n'a pas vraiment, voire pas du tout, été en soutien à l'époque pour les personnes qui étaient en train de succomber à l'épidémie. Donc c'est plutôt montré d'une manière à la fois onirique, mais qui tend vers un certain optimisme. Il y a la scène du club dans Faune qui m'a été inspirée par le livre 95 de Philippe Joigny, où il a tout une explication des corps émaciés qui dansent dans le club, mais qui en fait n'ont pas le temps de s'arrêter de danser, parce que s'ils dansent, ils meurent. Enfin, s'ils arrêtent de danser, ils meurent. Donc il y a beaucoup de passages dans Faune, on est sur la rapidité, on est sur l'accélération, la présence de la respiration est très forte. Je voulais vraiment que la respiration se fasse vraiment entendre. Il y a vraiment cette idée de course contre la montre. Quand les corps commencent à être à succomber à la maladie, il y a cette manière avec laquelle le danseur touche l'autre, vouloir aller dans la communion de son corps, vouloir essayer de comprendre, en avoir peur évidemment, mais ne pas laisser tomber la personne qu'il a aimée. Donc il y a tout un peu cette ambivalence là.
Et donc toujours sur Faune, tu as créé ce ballet à Joigny.
Oui.
Donc Bourgogne-Franche-Comté. Je voulais savoir pourquoi Joigny précisément.
Écoute, je me demande moi aussi encore pourquoi.
Très bien, non, mais c'est faire.
Écoute, j'ai découvert Joigny il y a 3 ans maintenant et c'est vraiment à la fois un Berlin. Enfin, il devrait y avoir une ligne qui rejoint New York, Joigny et Berlin.
Le fameux axe New York, Joigny, Berlin.
Mais en fait, genre, où en est-il? Où est-il? Parce que j'ai eu la chance de découvrir cet endroit et avoir eu par la confiance du maire Nicolas Sauré et de son adjointe à la culture Anne Méda cette autoroute créative, en me mettant à disposition des espaces de résidence, en me mettant à disposition une salle de spectacle dans laquelle je puisse faire mon spectacle. Et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé à fonder une Pride à Joigny et à fonder à être une des premières associations LGBTQIA+ présentes sur un territoire rural, à œuvrer pour créer des prides, et puis dans la foulée, on crée un deuxième ballet, parce que pourquoi pas, tu vois. Et c'est parce que je tends aussi à vraiment installer ça, que ce soit dans mon travail en tant qu'artiste, mais aussi en tant que militant, c'est de désengorger les grandes villes de ce...
Oui, décentralisé vraiment.
Absolument. Et tu vois, par le biais de l'association que j'ai fondée avec Vincent Millet, On a aidé des gamins à réaliser leur transition parce qu'en fait, ils n'avaient pas accès à ça. On a eu des parents qui nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à Dijon, qui pour nous, nous semblerait absolument anodin parce que c'est la ville qui est à côté, mais pour eux, pas du tout. Et qui vont ne jamais, ils vont pas monter à Paris à la Pride parce que ça, déjà, venir à Paris, ça leur semble être fastidieux comme périple. Et pour une Pride x10, déjà que même pour nous, c'est, par moments, on peut se perdre. Donc, c'est pour ça que c'est important de bouger un peu le milieu rural.
Amar, celui qui a mis Joanie sur la carte de France, eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre spectacle Métamorphose, donc ce diptyque Faune Mike, est à voir au Théâtre 12 à Paris les 28 et 29 avril. Le lien de la réservation du spectacle est sur le site de Radio Campus Paris, à la page merci de l'émission beaucoup. Et dans la description de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir merci. Été avec nous et merci à toi Sam. On s'approche doucement de la fin de cette émission. D'aucuns diront qu'on a passé un moment plutôt pas mal. Eh bien c'est fini, c'est l'heure du moment mal. C'est lui qui m'a écrit ce lancement.
Oui, c'est moi.
C'est mal.
C'est moi, mal. C'est un peu ma vie, finalement, ce genre de réplique. Oui, enfin, je veux dire, mon prénom, c'est mal. Et figurez-vous que beaucoup de gens se posent des questions. Je dois dire que mon prénom, bah, je l'ai choisi un peu à l'arrache. Ou plutôt, comme j'aime le dire, ce prénom est venu à moi plus que je ne suis venu à lui. Waouh. Alors, la petite histoire, elle a commencé quand je suis parti en échange à l'international, en Erasmus. Bien heureux de me rendre dans un pays où je pourrais expérimenter de nouveaux pronoms et une nouvelle identité. Recommencer de zéro, en fait, pendant un an, dans un nouvel environnement. Et je suis parti en Écosse. Et l'anglais étant beaucoup moins genré que le français, eh bien, j'ai bien kiffé utiliser exclusivement les pronoms neutres they, them, sans problème. Et puis, pour mon prénom, bah, voilà, j'ai choisi Mal, qui était un diminutif assez peu genré et commun pour les anglophones. Et puis dans une logique non binaire, est-ce que vous l'avez ? Et ben c'est un prénom de 3 lettres, donc c'est valide. Et puis ça m'a tellement plu que de retour en France, et ben j'ai décidé de m'appeler comme ça. Sauf que la France, ce pays de langue latine, et que le latin hein, associe mal à quelque chose de vraiment chamé. En France, on s'est donc beaucoup posé de questions, souvent l'air horrifié. Ah, mais tu t'appelles mal. Et au début, je vais vous dire, j'étais gêné parce que bah oui, je m'appelle mal et en mode Satan m'envoie, vous savez. Alors que pardon, mais si l'égérie du mal absolu était sur Terre pour des raisons de couverture, elle ne s'appellerait peut-être pas mal. Peut-être un truc passe-partout comme Bernard, Arnaud, les deux. Bref, d'un coup, tout le monde pointait du doigt mon prénom, acquis à la sueur du whisky de la ponce de brebis farcie. Et puis un jour, ma psy, Big Up L, m'a dit « Mais ne changez rien, il faut incarner ce que vous êtes. Oh. » Mais qui suis-je ? Eh bien, la réponse est toute trouvée, un petit plaisantin. J'ai donc décidé de faire un arsenal de blagues pour répondre à la question « C'est ton vrai prénom, Mal ?» Alors, il y a la classique « Non, non, on m'a échangé de prénom avec le voisin de la maternité, mais j'ai pris l'habitude. » Ou encore « Oui, oui, mes parents préféraient Malo, mais l'agent de l'état civil avait cassé la lettre O de son clavier. Pas de chance. » Et puis quand les gens ont l'air vraiment deg de ouf, quoi, en mode « tu t'appelles mal », je leur dis d'un ton penaud « oui ». En fait, c'est le diminutif de « mal formé ». Parce que j'étais un petit peu difforme à la naissance. Ce qui les rend extrêmement mal à l'aise, parce qu'ils me croient quand je leur dis ça. Et donc, moi, je suis très content. Et puis quand je suis d'humeur taquine, il y a la classique, et celle-là, vous pouvez la réutiliser. Ça, c'est pour toutes les personnes trans qui nous écoutent, quand Bidule vous embête. « Ah, et toi, tu t'appelles vraiment Bidule ?» C'est ta mère qui a choisi ton prénom et elle choisit aussi tes vêtements, non ? Bolos.
C'est la fin. C'était la
fin.
Chute.
C'est le bolos.
Merci
de la
beaucoup.
Fin.
Mal, c'est la fin de cette émission. On a juste le temps de se donner des idées de choses à faire, à voir, à lire, à écouter, à découvrir d'ici notre prochaine émission. Alors Mal s'en va car il ne veut rien découvrir. Sam, tu avais une suggestion ?
Oui, il y a le festival du théâtre 14 la semaine prochaine et le festival de la Sorbonne Nouvelle, festival de théâtre.
Très bien. Et d'ailleurs, on va aussi au théâtre 12 les 28 et 29 avril, je le rappelle, pour aller voir Métamorphose. Et Amar, vous avez une suggestion aussi ?
Tous légers au musée du Jardin du Luxembourg.
Tout simplement, rapide, efficace, pas cher. Chat.
Eh bien, moi, je vais vous parler de la marche lesbienne marche lesbienne, afro-lesbienne et trans-lesbienne de Paris.
C'est important.
Pardon. Qui va avoir lieu le 26 avril, donc juste avant le spectacle, mais Mais cette semaine, les 3 avril et 5 avril, on fait des soirées de soutien. La première lors de la jeudi woke à la Flèche d'Or et la deuxième au Merci Marcha avec un arpentage, un blind test et une tombola.
Oh là là, tellement queer, un arpentage, un blind test et une tombola, ça n'a aucun sens. Et moi je vous propose d'écouter le premier album de l'artiste queer hyperpop Thanks for Crying qu'on a reçu dans cette émission en compagnie de sa camarade Louise Bisou. Et on va voir Thanks for Crying sur la scène du FGO Barbara le 9 avril. La billetterie est ouverte sur la plateforme Dice. Merci à toute l'équipe du lobby, Zoé, Chat, Hélène, Mal, Cléo, Sam, à la réalisation Suzanne Cinca. Prochaine émission le 29 avril en compagnie du quatuor lesbien Camion Bip Bip. Mais pour l'heure, restez sur Radio Campus Paris car dans un instant, on vous emmène au pays des rêves et on va parler de fêtes et de politique, je crois, Elodie.
Et oui, c'est ça, ce soir, on va discuter avec la collective Au-delà du Club avec qui on va parler de la puissance politique de la fête et des musiques électroniques.
Eh bien, restez sur Radio Campus Paris, c'est de 21h à 22h, donc c'est dans un tout petit instant. À bientôt.